BW. Vue d'Allemagne.
Mit einem SUV.
Wie hoch ist das Risiko durch
SUV? Großen Geländewagen mutieren gerade zum Feindbild. SUV
deutlich gefährlicher.
Was haben solche Autos in der Stadt zu suchen?
Eine Obergrenze für SUVs.
Große Diskussion, soll man SUV noch in deutsche Städte lassen?
SUV, SUV, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais vous entendez que le mot revient en boucle dans les médias allemands. Les SUV, ce sont ces grosses voitures qui ressemblent à des 4x4 en apparence, souvent assez imposants donc, mais qui dans les faits n'ont souvent pas du tout les mêmes capacités. Pour faire simple, ce sont des grosses voitures pour la route, mais pas pour le désert ou la montagne. Et donc la question de savoir s'il faut laisser les SUV circuler dans les rues allemandes prendre plus en plus d'ampleur à Berlin et dans tout le pays, c'est l'un des grands débats du moment. On y revient dans un instant. Et puis juste après, direction la Slovaquie, un an et demi après les meurtres d'un journaliste d'investigation et de sa femme, l'étau se resserre autour d'un homme qui comparaît dans une autre affaire en ce moment. Son procès met en lumière la corruption jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, je vous souhaite la bienvenue, los geht's, c'est parti. C'était encore à la une de nombreux quotidiens du week-end dernier, c'est à la une de magazines aussi cette semaine. On lit des affichettes contre ces grosses voitures dans certaines vitrines de magasins de vélo, on découvre parfois des petits papiers contre ces berlines sur leur pare-brise directement déposés par des activistes. Le débat sur les SUV n'est pas nouveau en Allemagne, mais il est reparti de plus belle après un grave accident à Berlin. Dans la soirée du 6 septembre, un Porsche Macan heurte un groupe de passants. 4 personnes meurent, dont un enfant. De quoi relancer le débat sur la présence de ces voitures en ville et sur les routes allemandes. Elles sont toujours de plus nombreuses depuis quelques années. Il y en a actuellement, accrochez-vous, plus de 3 millions en circulation. En janvier déjà, on enregistrait un nombre d'immatriculations 20% supérieur à l'année d'avant et les SUV représentent désormais en gros un quart des véhicules vendus en Allemagne. Cela pose de nombreux défis donc, avec en premier lieu des enjeux sécuritaires, comme l'a montré le récent accident à Berlin dont on parlait. Ces véhicules sont dangereux, d'où une interdiction pure et simple proposée par certains. Alors on leur répond que toutes les voitures sont dangereuses. Oui, mais les SUV sont plus dangereux encore que la moyenne, estime Antje Kapek. Elle est chef du groupe parlementaire des Verts à la Chambre des représentants de Berlin.
En raison de la hauteur et de la place des organes vitaux en cas de collision avec un être humain, ces véhicules sont plus dangereux qu'une Smart. Et la question est de savoir qui est capable d'arrêter une telle masse. Par exemple, la Smart pourrait encore avoir été arrêtée par un lampadaire, mais ce n'est pas le cas d'un gros véhicule.
De gros véhicules, surnommés parfois chars des villes, qui prennent aussi de la place. Ils sont longs, larges, c'est le deuxième problème. Alors de nombreuses villes tentent de réduire le nombre de voitures ou des associations demandent la suppression des places de parking en ville au profit de jardins ou de pistes cyclables. Ces grosses voitures, plus grosses que la moyenne, posent problème. À Berlin, Antje Kapek propose donc désormais l'instauration d'un système de péage autoroutier autour de la ville qui serait plus cher pour les SUV.
Cela ferait une nette différence de prix entre les véhicules gros et lourds et ceux qui sont respectueux de l'environnement et petits. Et cela aiderait aussi dans la gestion du stationnement et limiterait l'acquisition de ces gros véhicules dangereux.
Des arguments que balaient d'un coup de main les défenseurs du SUV, dont fait partie Oliver Frandericci, le porte-parole transport à la CDU de Berlin, le parti d'Angela Merkel.
Comme les propriétaires de ces véhicules conduisent de toute façon des véhicules plus larges et plus chers, ils doivent payer plus de taxes sur les véhicules chaque année, plus de carburant. Cela signifie qu'ils sont déjà assez bien réglementés. Ils doivent aussi en tenir compte car l'utilisation de ces véhicules leur coûte plus cher. Ils ont aussi souvent du mal à trouver une place de parking.
La place, la dangerosité et le dernier élément du débat concerne l'environnement. Ces voitures sont plus lourdes, consomment davantage d'essence et sont donc plus polluantes. Un expert automobile allemand réputé a mesuré récemment qu'un SUV consomme en moyenne 6,2 litres d'essence aux 100 km contre 5,6 litres pour la moyenne des voitures. Ça représente environ 11 grammes de dioxyde de carbone de plus au kilomètre, quelque 7,5% de plus. Des ONG environnementales telles que Greenpeace avancent des chiffres encore plus élevés. Pour beaucoup, il est donc urgent d'agir contre les SUV, alors que les transports sont responsables d'1/5 des émissions de gaz à effet de serre en Allemagne. Le gouvernement allemand, le gouvernement fédéral, doit annoncer cette semaine, et après des semaines de travail, une série de mesures très attendues justement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir. L'objectif est d'être neutre en matière d'émissions en 2050. Le débat sur les SUV n'est ainsi certainement pas prêt de s'arrêter. Opel Gang, la clique Opel du groupe allemand dit Totenhausen, chanson évoquant une bande d'amis qui retape des voitures le samedi après-midi avant de se balader avec, une fois réparée, une chanson où il est question de voitures, comme on en entend régulièrement en Allemagne. Mais celle-ci est toute particulière puisqu'elle est aussi le nom du premier album du célèbre groupe dit Totenhausen. On est alors à l'été 1983 et on écoute les jeunes musiciens sur vinyle et sur cassette. Vue d'Allemagne, deuxième partie, on prend désormais la direction de la Slovaquie, pays d'un peu plus de 5 millions d'habitants dans l'est de l'Union européenne. C'est là-bas qu'ont été assassinés le journaliste d'investigation Jan Kuciak et sa fiancée Martina Kusnirova il y a un an et demi. On a d'abord cru sur place à des meurtres de la mafia italienne, mais l'étau se resserre désormais autour d'une figure locale de la pègre, Marian Kochner. Il est soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat. Son procès dans une autre affaire vient de débuter et met en lumière ses relations et son influence dans les plus hautes sphères de l'État slovaque. Reportage et retour sur cette affaire aujourd'hui à Bratislava avec Alexis Rosenzweig.
L'image qui nous est donnée de l'époque dans laquelle nous avons vécu et vivons toujours nous choque de plus en plus ces derniers jours. Quelqu'un s'est efforcé cyniquement de fonder un État dans l'État afin de le diriger pour ses propres intérêts et ceux de ses proches.
Sans détour, Zuzana Čaputová constate que la Slovaquie a tendance à ressembler à un État mafieux. Dans sa récente allocution, suite à de nouvelles révélations dans l'enquête, la nouvelle présidente de la Slovaquie a demandé des comptes et appelé à ce que ce procès du meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée marque un tournant dans la jeune histoire de ce pays, traumatisé par le drame sanglant du 21 février 2018. 5 suspects sont aujourd'hui sous les verrous, un ancien soldat qui aurait tiré à bout portant sur le couple, des intermédiaires et le commanditaire présumé, Marian Kochner, businessman à la réputation sulfureuse et véritable parrain à Bratislava, à en croire notamment la publication ces derniers jours de certaines de ses conversations sur une messagerie censée être chiffrée. Matouche Kostolny est le rédacteur en chef du quotidien Denik N, qui a déjà publié un bon nombre de ses textos.
Le contenu de cette messagerie m'a surpris et dire le contraire est difficile. Même si beaucoup de gens se doutaient que la situation était mauvaise dans nos institutions, peu d'entre nous savaient à quel point l'État était rongé de l'intérieur par Marian Kochner et d'autres mafieux qui ont réussi de manière absolument triviale à faire de la police et de la justice des instruments au service de la mafia pour régner dans ce pays.
Dans les messages publiés, il est notamment question de contact avec le ministre de l'Intérieur Robert Kalinak et le Premier ministre Robert Fico, avec leur surnom connu du grand public, tous les deux démissionnaires quelques jours après le double meurtre. Un peu moins de 6 mois avant sa mort, Jan Kuciak enquêtait sur les affaires de Marian Kochner, qui lui avait passé un coup de fil plus que menaçant.
O vašu matku, o vašu otca,
Je vais commencer à m'occuper spécialement de vous, de votre mère, de votre père, de vos frères et sœurs, avait notamment indiqué Marianne Kouchner au téléphone. Et la correspondance publiée ces derniers jours dévoile certains projets que Marianne Kouchner n'a pas pu réaliser, que ce soit la formation d'un nouveau parti politique ou la prise pour cible d'autres journalistes. Pavol Sterba est journaliste à Actuality.sk, le site pour lequel travaille Jan Kuciak au moment de sa mort.
Marianne Kouchner avait pris l'habitude de menacer certains de mes collègues et les dernières révélations sur ses messages sont tout simplement choquantes. Maintenant, pour la Slovaquie, la prochaine étape importante va être le scrutin législatif dans 6 mois pour voir si les Slovaques vont enfin élire des députés qui ne sont pas liés à des gens toxiques.
Selon le politologue de l'Institut slovaque pour les questions publiques, Grégory Mesejnikov, le meurtre d'un journaliste a provoqué un tel choc que des conséquences bénéfiques ont pu en être tirées pour la démocratie slovaque, avec notamment l'élection d'une nouvelle présidente, novice en politique, Zuzana Čaputová, et également l'arrivée de nouvelles formations pour les prochaines législatives, des élections qui doivent être organisées en février prochain, 2 ans, presque jour pour jour, après la découverte des 2 corps sans vie de Jan Kuciak et Martina Kouchnirova.
Jusqu'à ce drame, on a atteint un tel niveau de corruption qu'il ne serait finalement pas étonnant d'apprendre que certains de nos responsables politiques et magistrats connaissent le nom des coupables avant même le début de l'enquête.
Selon l'un des procureurs en charge de l'affaire, l'enquête pourrait être bouclée d'ici le mois de novembre pour aboutir ensuite à ce procès très attendu. C'est ce que ce procureur a indiqué à des journalistes il y a une dizaine de jours à Bratislava, lors d'une conférence de presse pendant laquelle il a tenu à garder l'anonymat et où les caméras n'ont pu filmer que ses mains pour des raisons de sécurité, tandis que dans son procès ces derniers jours, dans le cadre d'une autre affaire, Marianne Kouchner est amenée au tribunal dans une voiture militaire blindée. À Bratislava, Alexis Rosenzweig pour la Deutsche Welle.
Reportage et émission complète à retrouver sur le site de la DW, car pour l'antenne Vue d'Allemagne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de rendre l'antenne, un merci à la technique, à Anne Letouzé, Alexis Rosenzweig, Mireille Drone et nos confrères de Deutsche Langfunk pour les réactions sur les SUV enregistrés à Berlin. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour d'autres infos et un tout nouveau numéro. D'ici là, alles Gute, portez-vous bien, à très bientôt, tschüss!